Ce matin, j'ai lu son blog. Elle est journaliste à Radio-Canada et son analyse de ce matin, c'est « Le docteur Arruda et le pouvoir ». Ça fait beaucoup réfléchir. Je vous invite à aller le lire d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu. Mais on a le plaisir de lui parler. Elle est au bout du fil. Martine Biron, bonjour.
Bonjour, Éric.
Martine, d'abord, tu as écrit quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question depuis le début de la pandémie. C'est quoi le pouvoir du docteur Arruda? Parce que souvent, François Legault va dire « La direction publique m'a donné l'autorisation de faire ça. J'attends après la direction de la santé publique pour savoir, le directeur de la santé publique pour savoir ce que je peux faire. » Explique-nous un peu derrière la scène, là. C'est quoi? Comment ça fonctionne, la répartition de pouvoir entre le premier ministre puis le directeur de la santé publique?
Ben, il faut d'abord comprendre que le premier ministre, c'est un élu et que le directeur de la santé publique, c'est un fonctionnaire qui vient du ministère de la Santé. Et c'est lui qui avise son ministre, en l'occurrence Danielle McCann, qui est la ministre de la Santé. Mais comme on est dans une situation de crise importante, il avise le gouvernement, c'est-à-dire François Legault. Et c'est François Legault qui ultimement prend la décision finale. Mais M. Arruda a un rôle de conseiller et je dirais un peu plus que ça, parce que on est dans une situation de pandémie. Donc, lui, il doit avoir autour de M. Arruda une équipe de scientifiques qui vont dire au premier ministre, regardez, là, si on prend telle décision, il peut y avoir tant de morts, il peut y avoir, on va surcharger nos hôpitaux, on va surcharger nos soins intensifs, ça nous prend tel type d'équipement. Alors, c'est lui qui coordonne, si on veut, toute l'action autour de la pandémie. Tandis que M. Legault, lui, ben, c'est l'élu, c'est celui qui prend la décision ultime et qui la propage, qui la diffuse.
Parce que nous, au Québec, depuis le début de la pandémie, tous les jours, on voit pratiquement François Legault avec le docteur Arruda. Alors qu'à Ottawa, Mme Tam, on l'a vu quelques fois avec Justin Trudeau, mais elle n'y est pas tous les jours. Il y a d'autres provinces, la majorité, où c'est des conférences de presse même complètement séparées entre la direction de la santé publique et le premier ministre. Pourquoi on a choisi au Québec une espèce de situation où il y a le mélange des genres entre le bureaucratique puis le politique?
Oui, mais ça dépend. Bon, on voit le docteur Fauci aussi, qui est toujours en arrière du président Trump. Bonnie Henry, qui est en Colombie-Britannique, qui est pas toujours fait souvent ses points de presse tout seul, mais ça arrive que le premier ministre est là aussi. C'est un choix. Je dirais qu'au début de la crise, on était beaucoup plus dans une dynamique de santé publique et c'était pratico-pratique pour M. Legault d'amener Horacio Arruda dans son bureau au troisième étage de Honoré-Mercier. Quand on a entrepris le déconfinement, là, et c'est là que le mélange des genres a commencé à apparaître, parce que le politique a repris ses droits. On est sorti de la dynamique de la santé publique pour entrer finalement dans une dynamique politique. Là, en même temps, il reste des
plus
enjeux de santé publique.
Plus partisane dans ce sens-là, Martine.
Ben c'est ça. Puis bon, le docteur Arruda, ben il se retrouve finalement pris il est comme dans le sandwich là, tu sais, parce que bon, il y a les scientifiques de la santé publique, les fonctionnaires, et il y a le politique qui est important. Et moi, j'ai jamais vu un fonctionnaire s'installer au troisième étage.
Parce que explique-nous ça, là, physiquement, là, qu'est-ce que ça veut dire, là? Ça veut dire qu'il y a le bureau du premier ministre puis il y a ses principaux conseillers. Ça, c'est du staff politique, là. Ça veut dire que quand le premier ministre change, ce monde-là sont éjectés puis c'est des nouveaux qui arrivent avec le nouveau régime, là. Mais lui, il est rendu dans cette aile-là, si j'ai bien compris, là.
Ben, c'est ça. Il est installé parce que généralement, le ministère du conseil exécutif, qui est le ministère du premier ministre, où il y a les fonctionnaires, là, ils sont au deuxième étage. C'est vrai que, comme je disais, pratico-pratique, là, au début de la crise, à un moment donné, il se parlait tout le temps. Alors, bon, c'est intéressant de l'avoir installé là. Maintenant, on est dans une situation, il faut comprendre qu'au troisième étage, c'est juste du monde qui font de la politique. Alors, lui, le fonctionnaire, il est installé là. Puis, supposons que, tu sais, on fait beaucoup l'analogie de la guerre pour combattre cette pandémie-là. Ben, il faut comprendre que le staff politique, là, eux autres, ils sont en guerre permanente parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est convaincre des gens de gagner des votes. C'est ça le but ultime, c'est de garder le pouvoir. Alors, c'est sûr que le docteur Arruda, il se retrouve dans une situation où il est à cheval entre son domaine d'expertise et les intentions électoralistes de M. Legault, là, qui quand même se domine là, au troisième étage de Honoré-Mercier.
Est-ce qu'il y a des précédents comme ça? Parce que moi, sérieusement, c'est la première fois que je vois ça. Là. Ça fait longtemps que je suis à la politique québécoise. Martine, j'ai jamais vu un fonctionnaire être aussi politique sur la place publique. Là. Tu donnes des exemples, notamment quand il s'y met à taper sur Ottawa. Je pourrais te donner l'exemple de la vidéo où il danse. Moi, ce qui m'a scandalisé, c'est pas qu'il danse. Au contraire, je trouvais ça plutôt sympathique. C'est le fait que les paroles étaient très partisanes en faveur de François Legault. Qu'un fonctionnaire se mette à danser puis chanter ça, je trouvais ça un petit peu bizarre. Fait que, est-ce qu'il y a des précédents? C'est-tu normal qu'un fonctionnaire fasse de la politique?
Il n'est pas supposé en faire. C'est pas son mandat. Est-ce que c'est une personnalité qui aime pas se faire questionner? C'est sûr qu'en étant au bureau du premier ministre, il est dans une situation où il est presque intouchable. Et quand finalement la docteur Nemer, qui est au bureau, qui est la scientifique au bureau du premier ministre Justin Trudeau, a soulevé des doutes ou des questions en fait sur la stratégie de dépistage au Québec, visiblement il a été piqué au vif. Puis au lieu de répondre avec une réponse scientifique, il a répondu avec une réponse politique là, en disant on n'a pas vraiment de leçons au Québec à recevoir.
Qu'Ottawa se mêle de ses affaires. Dans le fond, c'était ça, quand poliment dit, c'était ça.
C'était le début. Je dirais que c'est la faille qui est apparue finalement dans son discours à M. Arruda et est survenue là. Mais quand tu regardes en coulisses, il y en a d'autres scientifiques au Québec qui soulèvent des doutes là, sur la stratégie du Dr Arruda. Mais comme il est au bureau du premier ministre, c'est difficile d'élever la voix. La deuxième chose que je dirais là-dessus, c'est pour fin de comparaison, quand il y a eu la H1N1 oui. en 2009, la direction de la santé publique était beaucoup plus tournée autour du ministère de la Santé. Et à ce moment-là, le directeur de la santé publique, c'était Alain Poirier. Et il est allé faire une fois une présentation au Conseil des ministres. C'est assez rare qu'il y ait un étranger, là, je mets en guillemets, qui vient au Conseil des ministres. Mais il est toujours resté dans ses bureaux au ministère de la Santé. Alors, c'est sûr que M. Arruda, là, il est tous les jours entouré du premier ministre. Et c'est grisant, là, parce que le premier ministre, quand on est face à face avec le premier ministre, c'est quand même quelqu'un de très important.
Mais en même temps, il s'expose parce que au début de la crise, on avait l'impression que c'était un intouchable, Arruda, dans le sens où tout le monde trouvait qu'il était bon, qu'il était sympathique, un Portugais qui parle extraordinairement bien français, qui nous parlait de ses tartelettes. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu un gros, gros, gros succès au niveau de la communication au départ. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il est dans une situation plus embarrassante, là, tu sais, sur les masques, entre autres, avec ses positions qui changent sur les grands-parents, l'âge des professeurs. Il y en a eu plein, là, sur le fait que oui ou non, on veut-tu aplanir la courbe, puis l'immunité collective ou pas. On a eu l'impression qu'il y a eu un peu d'improvisation, puis j'ai l'impression que le capital de sympathie du départ, c'est lentement, mais sûrement un peu effrité. Puis aujourd'hui, on peut écrire des papiers comme tu fais ce matin, parce que la confiance est peut-être moins là, puis il est peut-être plus critiquable. Il s'est exposé plus qu'il aurait peut-être dû. Là.
Moi, les gens à qui j'ai parlé disent que le Dr Arruda, c'est quelqu'un qui est compétent, qui est vaillant et qui veut bien faire les choses. Alors, oui, il y a eu des ratés, mais c'est difficile de comparer. On va pouvoir mieux comparer la première vague à la deuxième, s'il y en a une deuxième, parce que là, on va s'attendre à ce que le ministère soit préparé. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de valsifications et c'est assez difficile de se comparer. Il y a une chose qui est claire, c'est que en janvier, là, au Québec, là, on n'y croyait pas vraiment qu'il y aurait une pandémie, là, que ça se rendrait ici. Parce que d'ailleurs, on a commandé les équipements de protection individuels en retard sur les autres provinces. Puis si je prends l'exemple de la Colombie-Britannique, Mme Henry, elle, avait connu le SRAS. Elle était en Ontario à la santé publique en 2003. Elle a combattu l'Ebola. Quand elle est arrivée en Colombie-Britannique, il y avait la communauté asiatique aussi qui faisait des pressions. Alors, elle a rempli des entrepôts à ras-bord d'équipements de protection individuelle. Ici, on ne l'a pas fait parce que la H1N1, en 2009, n'a pas eu lieu, finalement. C'était une fausse menace. En fait, c'est une menace qui n'est pas survenue. Et ce qu'on me disait des gens de la sécurité publique, de la santé publique qui étaient là en 2009, c'est qu'on a rempli au Québec 7 entrepôts d'équipements de protection individuels qui ont à peu près pas servi. On a envoyé de ce matériel-là en Afrique. La seule chose qui a duré dans le temps, parce qu'il n'y a pas de date de préemption, c'est des respirateurs. Puis ici, on n'a jamais ça a été clair qu'on n'en manquerait jamais. Alors, il y a eu une petite réserve à commander abondamment début janvier en se disant, ben coudonc, on va se retrouver dans la même situation, dépenser des millions et des millions, remplir des entrepôts pour de l'équipement qui finalement ne servira pas.
Il y a des auditeurs qui me textent au 25226, puis il y a beaucoup de gens qui se posent la question, puis même tu en parles aussi dans ton texte de ce matin. On se demande si le docteur Arruda a des ambitions politiques, parce qu'on le voit souvent plus comme un politicien qu'un technocrate. D'après toi, il va-t-il aller en politique ou pas?
Ben ça, c'est difficile de répondre à ça, mais la question a été posée par Guillaume Lepage, à oui. Tout le monde en parle la semaine dernière, puis il a répondu pas mal à cheval sur la clôture. Hein. Il a dit je vais aller la chercher la citation, je l'avais sortie. Il a dit je n'ai pas d'ambition, mais je ne dis pas que je ne le ferai pas, parce que si je dis que je ne le ferai pas, je vais finir par le faire. Il a plus dit qu'il n'y avait pas d'ambition, tu sais. Alors, il y a des gens qui ont dit, ben non, la porte est fermée, mais il y en a d'autres qui trouvent que la porte est pas mal ouverte. S'il devait, en 2022, être candidat puis devenir ministre de la Santé, ben là, on va se poser des questions là, sur vraiment son comportement pendant la crise.
Mais il faut quand même rappeler que c'est pas la CAQ qui l'a nommé là. Hein. C'était les libéraux, puis qu'il a servi sous tous les gouvernements depuis Jean Charest, là, que ce soit Philippe Couillard, Pauline Marois ou aujourd'hui avec François Legault. Fait que, objectivement, il a quand même servi tous les partis, là.
Oui, c'est ça. Lui, c'est ça. Il est rentré à la santé publique sous Jean Charest et il a été nommé directeur de la santé publique par le gouvernement de Pauline Marois en 2012. Alors là, il est directeur à la tête de ce département-là. Il relève du sous-ministre à la santé et aux services sociaux. Alors oui, on ne lui connaît pas vraiment une couleur politique comme telle. C'est son titre, c'est sous-ministre adjoint. Et il est contractuel. Alors, il se renégocie ses contrats de gouvernement en gouvernement. Et généralement, si tu veux être renouvelé, quelle que soit la couleur politique, ben tu es loyal et fidèle au gouvernement qui est en place. Et ça, on reconnaît, je dirais, autant ses amis que ses ennemis, parce que c'est quand même une personnalité qui polarise. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, puis il y en a beaucoup qui l'aiment beaucoup. Alors, il a réussi à manœuvrer, je dirais, quelle que soit la couleur du gouvernement.
En tout cas, il va être intéressant à suivre. Il va falloir qu'on voit quel chemin ça va prendre, mais pour l'instant, il commence à y avoir des interrogations. J'ai l'impression que le débat ne fait que commencer sur l'évaluation de ce qui a été fait. Puis c'est peut-être là que le docteur Arruda, ça va être plus difficile, là. Parce que...
Ben, actuellement, les sondages, parce que le bureau du premier ministre sonde régulièrement et il fracasse des records. Alors, tant et aussi longtemps que sa cote est bonne, je pense qu'on va le voir à côté du premier ministre.
Okay.
Parce que c'est un atout pour lui.
C'est un atout pour lui, mais en même temps, c'est peut-être pas un atout pour Arruda dans le sens où plus il se colle sur le politique, plus il devient teinté, là.
Ben là, c'est à lui à faire ses propres décisions. Mais la question on se pose, les partis d'opposition vont le faire. C'est qui, quand il y a un arbitrage, par exemple, il n'y a pas de minute. Par exemple, on documente pas les réunions pour prendre les décisions. Alors, il y a des arbitrages qui se font. Là. Regardez, la semaine dernière, M. Legault disait, ben là, il n'y aura pas de saison touristique. J'aimerais ça que les Québécois puissent voyager au Québec. M. Arruda a dit vendredi, il est avec Geneviève Guilbeault, il a dit, moi, j'aimerais mieux qu'on ne fasse pas de déplacement interrégion. Alors, vous voyez qu'il y a un arbitrage là à faire. Alors, qui va trancher ultimement? Là c'est patent, là, parce qu'on a vu, on est capable de comparer les deux déclarations.
Mais le politique, exemple, c'est très dur, Martine, pour le politique d'aller contre un gars qui a l'expertise puis qui a le titre. Moi, j'ai toujours pensé que dans ce dossier-là, même si c'est un des rares, sinon le seul, où l'autorité du premier ministre est minée. Parce que s'il va contre son directeur de la santé publique, si par exemple, il avait donné le go à du confinement contre l'avis de la santé publique, le premier ministre aurait eu une pression énorme sur les épaules. Il peut quasiment pas. Arruda, il a un gros, gros, gros pouvoir, même s'il est juste pour conseiller. C'est pour ça qu'on dit que là, c'est ambigu puis qu'on se demande si c'est pas lui le décideur ultime présentement.
Bien, c'est sûr qu'il... Mais de toute façon, M. Legault, il faut aussi qu'il fasse attention. Il peut pas mettre la santé de ses des citoyens du Québec. Il est là. Il est élu pour diriger puis pour protéger les gens. Alors, il a son travail à faire, lui. Arruda a le sien à faire aussi. Et lui, ce qu'il doit, parce qu'il faut comprendre que M. Legault, c'est pas un scientifique, mais il est quand même capable de lire une étude scientifique.
Oui.
Il est capable de comprendre. Moi, je suis convaincue qu'il pose et qu'il doit, les oreilles de M. Arruda doivent tourner tellement M. Legault doit y poser des questions. M. Legault, en plus, c'est quelqu'un qui est axé sur les résultats.
Mais oui.
Il n'aime pas tellement ça, philosopher trois heures de temps.
C'est pour ça qu'il est premier ministre, parce que lui, il est là pour faire un arbitrage entre toutes les tensions, autant la pression qu'il reçoit au niveau de la santé publique que, par exemple, au niveau économique, parce que ça a des désastres au niveau économique. Arruda, il n'a pas à répondre de ça. Là. Et lui, il est là pour faire un arbitrage, le premier ministre, mais dans le contexte actuel où tout est vraiment centré sur la santé publique, c'est là que ça devient difficile d'aller contre l'avis d'un de tes conseillers. Là.
Oui, mais on ne sait pas comment ils font ces arbitrages-là.
C'est ça.
On ne sait pas comment.
On va-tu le savoir un jour? Ça va-tu être rendu public, ça?
Bien, je pense pas qu'il y ait des minutes. Je pense pas qu'on tu sais, généralement, les conseils des ministres,
il y a quelque chose.
Il y a des minutes, puis 30 ans ou 25 ans plus tard, on libère finalement les verbatims ou en fait les décisions qui ont été prises.
Mais
je pense pas que c'est le cas. Alors, il faut leur faire confiance, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a Arruda et l'équipe de M. Legault qui sont autour de la table.
C'était
Richard Massé aussi qu'il faudrait mettre parce que ça c'est vraiment lui c'est le scientifique et il a servi c'est le mentor de Horacio Arruda
ouais.
Il s'appelle Richard Massé qui est un chercheur qui est à la retraite scientifique à la retraite mais il a servi également comme directeur de la santé publique quand M. Legault était ministre de la santé
à l'époque
en 2003.
Donc, ils
se connaissent et puis il y a un bon lien de confiance avec cette équipe-là.
Très intéressant. Ceux qui en veulent plus, vous avez juste à aller lire le blog de Martine Biron, journaliste à Radio-Canada. Merci beaucoup, Martine, de nous avoir jasé aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir.